Venez, vous dont l'œil étincelle, pour entendre une histoire encore. Histoire qui nous conduiront, au fil des mois, à travers le Sud. Notre Sud, ce pays où il fait souvent si bon vivre, entre l'Atlantique et la Méditerranée, entre les Pyrénées et une ligne vague, qui se situe au nord de l'Aubrac, mais pas trop au nord quand même, il faut pas exagérer. Chacune d'elles aura un thème et, cette fois-ci,
nous allons évoquer la chasse et nous allons remonter le temps pour revenir au Moyen-Âge. Amaury de Brassac, une histoire écrite et lue par Bernard Bonne. Dans le pays qui va de Foix au premier pic des Pyrénées, vécut autrefois une famille de chasseurs renommés, celle des comtes de Brassac. Qu'on soit clair, dans ce pays, tout le monde chassait, chacun à sa façon et selon ses besoins, les pauvres pour manger, les riches pour leur plaisir. Mais les Brassac, eux, considéraient la chasse comme un art et ils s'y consacraient avec passion depuis des générations. Chaque comte de Brassac pouvait s'enorgueillir de plusieurs hauts faits de chasse et les murs du château familial s'ornaient de multiples trophées, cornes d'isard, hures de gigantesques sangliers, andouillés de cerfs tentaculaires. Pourtant, et cela est vrai pour toute lignée humaine, fût-elle la plus puissante, la plus redoutée, les Brassac avaient trouvé leur maître. Dans le pays, aux portes même de leur domaine, vivait une biche blanche qu'ils n'avaient jamais pu tuer, malgré leur science de la vénerie. L'animal paraissait invincible, et une aura quasi surnaturelle l'enveloppait. Peu à peu, cette bête étrange qui toujours leur résistait finit par obséder la famille, et le but ultime de chaque nouveau maître de Brassac fut de triompher de cette biche. Ainsi, quand Amaury de Brassac naquit, son père forma-t-il le vœu que cet héritier soit celui qui capturerait la biche et, pour que cela s'accomplisse, il n'hésita pas à demander l'aide de quelques femmes qui, dans la contrée, étaient considérées comme des sorcières. Les sortilèges qu'elles formulèrent semblèrent assez vite porter leurs fruits. Dès ses premières années, Amaury démontra un talent extraordinaire pour la chasse. Cavalier infatigable et d'une souplesse inouïe, il maniait à la perfection l'arc et l'épée. Amaury atteignait toujours son but, et les habitants des vallées ariégeoises, stupéfaits par sa dextérité, murmuraient tout bas que les flèches qu'il décochait étaient guidées par le diable en personne. À 16 ans à peine, il avait triomphé des plus rudes adversaires que son pays abritait. Il les avait tous vaincus, tués ou capturés, depuis les isards funambules qui dansaient sur des crêtes vertigineuses, jusqu'aux ours qui, tapis au plus profond des bois, protégeaient leur territoire avec une rage et une volonté surnaturelles. Aucun animal ne lui avait échappé, aucun, sauf la biche blanche. Il l'avait aperçue en deux occasions. La première fois quand il avait 6 ans, le jour de Noël, en plein village. L'animal était passé, lentement, devant l'assemblée des paysans et des nobles effarés. La solennité de l'événement avait empêché quiconque de s'attaquer à la bête. Il la revit ensuite, le jour où son père mourut. Chaque fois qu'un Brassac rendait l'âme, elle s'approchait du château. C'était sa façon à elle de dire à toute la famille « En voilà un de plus qui s'en va, un de plus qui ne m'a point tué. » Ils s'observèrent en silence, longtemps. Lui, debout sur les murailles, elle plantée à la lisière de la forêt, et ce regard échangé fut leur déclaration de guerre. À compter de cet instant, Amaury décida qu'il ne poursuivrait plus d'autre gibier que la biche blanche. Il abandonna le château et, devenu solitaire et sauvage, passa sa vie dans les lieux les plus reculés de la contrée. Lentement, il apprit à reconnaître la piste de l'animal, à comprendre ses habitudes, à deviner sa présence, même lointaine. La seule façon de la vaincre était de vivre et de penser comme elle, et c'est ce qu'il fit. Au bout de 3 années, au printemps, il s'installa près d'un ruisseau, dans un lieu désolé et sans lumière, où la montagne faisait un palier entre 2 cascades. Il avait compris que la biche venait parfois s'y reposer. Là, il construisit une cabane de branches et de feuilles, se confondit avec les arbres et attendit. Un jour, à l'aube, elle apparut. Le souffle suspendu, Amaury banda son arc et tira. Il atteignit la biche dans le ventre, sous une patte, et de la blessure coula aussitôt un flot de sang. Le chasseur poussa un rugissement de triomphe, puis, jaillissant de sa cachette, il bondit vers sa proie. Celle-ci toisa à Maury, recula de quelques pas, puis se précipita dans la cascade. Il n'eut pas le temps d'esquisser un geste pour l'en empêcher. Aveuglé par sa fureur, il sauta à son tour, tourbillonna comme une feuille, puis rebondit sur quelques rochers. 20 mètres plus bas, son corps fut happé par un tourbillon, puis projeté par le courant contre un tronc d'arbre. Plus de traces de l'animal. Amaury, les jambes brisées, le visage couvert de sang, sentit le venin de l'eau glacée pénétrer dans son corps. Il se recommanda à Dieu et attendit la mort, puis il s'évanouit.
Is wide, I can cross over, and neither have I wings to fly. Give me a boat that can carry two, and both shall. And I, love is gentle and love is kind, the sweetest flower when first it's new.
Quand il se réveilla, il commença par se dire qu'il était en enfer. Le paradis ne pouvait pas ressembler à ce qu'il voyait. Son corps nu était allongé sur une paillasse de bruyère séchée. Il était seul et il comprit, quand il essaya de bouger, qu'il n'était pas mort. Une douleur fulgurante le fit retomber sur sa couche. Ses deux jambes s'étaient cassées lors de sa chute et il ne pouvait se lever. Il essaya de ramper jusqu'à la porte pour voir où, dans le pays, se situait la masure, mais ce fut peine perdue. Ivre de douleur, il s'effondra dans un gémissement. Les heures passèrent, et à la façon dont la lumière du soleil tournait autour de la maison, il comprit qu'il se trouvait dans une vallée extrêmement étroite et orientée vers le sud. Il huma les odeurs qui venaient de l'extérieur, mais n'y trouva aucun élément qui pût l'aider à se situer. Il laissa son esprit vagabonder. Qui l'avait sorti du torrent? Où donc était passé l'occupant de la cabane? Et comment la biche lui avait-elle échappé une fois encore? Cette dernière question, plus encore que la douleur due aux blessures, le taraudait. Chaque fois qu'il revoyait l'animal bondir dans la cascade et s'enfuir, il poussait un cri de rage et d'impuissance. Vers le soir, une femme vêtue d'une bure de lin grise et usée, une femme qui lui sembla d'une vieillesse infinie, entra dans la maison, alluma un maigre feu et commença à s'occuper de lui. Elle avait l'air si menue qu'Amaury ne pouvait imaginer que c'était elle qui avait réussi à le sauver. Il lui posa quelques questions, mais elle demeura muette et continua, par des gestes lents et sûrs, de panser ses plaies avec des herbes et de la terre humide. Quand elle eut terminé, les jambes d'Amaury se trouvaient prises dans une gangue de glaise qui lui procura un sentiment de bien-être immédiat. La douleur s'éteignit peu à peu et il put s'assoupir. Quand il se réveilla, il faisait nuit noire, mais la vieille ne dormait pas. Elle se tenait près de lui et, de temps en temps, passait sur son visage et sur sa poitrine en linge humide. Voyant qu'il sortait de son sommeil, elle alla chercher un bol de soupe et le fit manger. Pendant de longues semaines, ce rituel quotidien se répéta. Deux saisons passèrent, mais Amaury était encore trop faible pour pouvoir repartir. Il essaya de reconnaître l'endroit où il se trouvait. Sans succès. Inutile de questionner son étrange compagne. Elle ne répondait jamais. Alors il se dit que, quand il serait remis, il suivrait le cours du ruisseau qui coulait près de la masure et qu'il finirait bien, ainsi, par retrouver des endroits familiers. You all alone. Un jour, enfin, il sut qu'il était guéri. Il dit à la vieille qu'il allait partir et lui demanda comment il pouvait la remercier pour les soins qu'elle lui avait prodigués. « Que puis-je faire pour toi ? Veux-tu venir dans mon château ? Tu y seras traité comme une reine, pour une fois. Parle-moi !» Et contre toute attente, elle répondit « Amaury de Brassac, tu dois me rendre chacun des jours que je t'ai donnés, et tu dois me les rendre tels que je te les ai donnés. À compter de cet instant, tu vas me nourrir et me soigner jusqu'au printemps prochain. » Amaury éclata de rire. « Tu crois que je vais rester dans cette prison un jour de plus ? Maudite sorcière ! » Et, lui tournant le dos, il s'en alla le long du ruisseau. À peine avait-il fait 20 pas qu'il se heurta à un mur invisible. Il ne pouvait plus avancer, une force mystérieuse l'en empêchait. Il essaya 10 fois, rien n'y fit. Il jeta des pierres contre cet obstacle qu'il ne pouvait voir. Les pierres le traversèrent sans heurts, comme le traversa un lièvre qui fila entre ses jambes. Lui seul, Amaury, était prisonnier. Fou de rage, il revint vers la cabane, voulut saisir la vieille femme par le cou et l'obliger à le libérer. Mais elle aussi semblait protégée par un voile invisible. « Sorcière ! » hurla-t-il, « tu m'as envoûté ! Mes foi de Brassac, je sortirai d'ici !» Pour toute réponse, elle lui tendit un panier d'osier et lui indiqua le foyer presque éteint. Le message était clair. L'heure, pour lui, de les nourrir tous deux et de s'occuper de la maison avait sonné. Il n'avait pas d'autre façon de payer son tribut. Il alla dans la forêt ramasser du bois, des baies, quelques plantes. La tentation de fuir le reprit dès qu'il fut éloigné de la cabane, mais il semblait qu'un gardien au pouvoir surnaturel ne le quittait pas des yeux. À peine esquissait-il un geste pour s'échapper que les parois transparentes et infranchissables de sa prison se dressaient devant lui. Il se résigna à obéir à d'autres voix que celle de ses désirs, et sa vie se déroula dès lors autour de la masure. Ses matinées furent occupées par la cueillette et, quand cela était possible, par la chasse. Il constata peu à peu que la forêt l'autorisait à tuer, mais seulement pour que lui et la vieille puissent manger. Rien de plus. Et il devait vaincre ses proies sans armes. Il se fabriqua un arc et une fronde, mais il ne put jamais les utiliser, car une main invisible détournait flèches et pierres de leur cible. Alors il s'en remit à la patience et à la ruse, et, pour la première fois, il se battit à armes égales avec la nature. Il s'aperçut qu'il savait peu de choses sur les bêtes qu'il traquait autrefois avec aveuglement, et il apprit à les traiter non pas comme des ennemis à combattre, mais comme des compagnons qui partageaient le même territoire que lui. La vieille ne quittait plus la cabane. Amaury s'occupait de tout. Il calfeutra les brèches du taudis et entretint en permanence des foyers aux 4 coins de la maison pour maintenir autour d'eux un peu de chaleur. Comme il avait fait des réserves de châtaignes et de champignons séchés, que les bois lui faisaient l'offrande, parfois d'un lièvre ou d'un lapin, ils purent passer les périodes délicates de l'hiver sans connaître la faim. Adieu, Mormonfield, and the dear land of Crimant, I bid you farewell. I'm bound off for Greenland and ready to sail, in hopes to find riches, in hunting. Farewell to my comrades, for a while we must part, and likewise the dear lass who first won my heart. The cold coast of Greenland, my love, will not chill, and the longer my absence, more loving she'll feel. Our ship is well rigged and she's ready to sail. The crew, they are anxious to follow the
icebergs do float and the stormy winds blow, where the land and the ocean is covered with snow. Is barren and bare. No seed time nor harvest is ever known there. And the birds here sing sweetly in mountain and dell. But there's no bird in Greenland to sing to. There is no habitation for a man to live there, and the king of that country is the fierce Greenland bear, and there'll be no temptation to tarry long there. With our ship bumper full, we will homeward repair.
Chaque matin, Amaury descendait au torrent et en ramenait de l'eau qu'il réchauffait sur les pierres brûlantes. Une partie de cette eau servait à faire une soupe épaisse dans laquelle il plongeait un peu de viande. L'autre était utilisée pour la toilette de la vieille. C'était Amaury qui devait s'en charger. Elle se déshabillait jusqu'à la ceinture et l'orgueilleux comte de Brassac s'agenouillait devant elle pour passer sur son corps blanc un linge trempé d'eau tiède. Au tout début, Amaury éprouva honte et dégoût, puis cela s'estompa. Un jour, avec surprise, il constata qu'il prenait du plaisir à laver la femme. Ses mains s'attardaient sur la peau du visage, sur les seins, sur les épaules. Le vieux corps était couvert de cicatrices et Amaury s'en étonnait à chaque fois. Quelle vie avait-elle donc menée pour avoir été transpercée ainsi? Il en arrivait toujours au même point. Cet être était surnaturel et disposé de pouvoirs magiques. Mieux valait lui obéir dans l'attente du moment où il serait libéré. Un jour, comme il s'attardait avec plus de patience et de tendresse, bien qu'il eût refusé de se l'avouer, sur une des cicatrices de ce corps, il s'aperçut que cette blessure s'effaçait peu à peu sous le linge. Il n'en crut pas ses yeux. Vite, il chercha une réponse dans les yeux de la vieille, mais ceux-ci restèrent impénétrables. Pourtant, dans leurs prunelles, Amaury aperçut l'éclair d'une paillette d'or. On eût dit que le visage avait rajeuni. Jour après jour, le phénomène se répéta. Sous les doigts du jeune homme, les cicatrices disparurent et les rides, les plis de la peau épuisée, s'en allèrent aussi. Le visage devint lisse. Il retrouva un ovale délicat et une cascade de cheveux roux en rehaussa la douceur. L'heure de la toilette devint pour Amaury un moment de désir et de bonheur. Il y pensait sans cesse, sans chercher d'explication à ce miracle. Il voulait simplement qu'il dure le plus longtemps possible. Mais le printemps arriva et un matin, alors qu'il s'apprêtait à laver sa geôlière, celle-ci l'écarta et dit « Demain, tu seras libre. Tu pourras rentrer chez toi. Nous ne nous reverrons plus. » Non. Hurla le chevalier, « Non, je veux rester près de toi. Tu as compris que je ne suis pas de celles qu'on capture et qu'on emprisonne. » Oui, je l'ai compris. Si tu restes, c'est toi qui vivras comme j'ai choisi de vivre, et non le contraire. Oui, alors il te reste une dernière chose à faire. Elle fit tomber sa bure à ses pieds, et pour la première fois dévoila son corps entièrement nu à Amaury. Plantée au creux de son ventre, près du pubis d'un roux ardent, une flèche déchirait la chair et dessinait l'étoile d'une ultime cicatrice. « Reconnais-tu ta flèche, Amaury de Brassac ?» Le jeune comte recula horrifié et balbutia. « Seigneur Dieu, comment est-ce possible ? Enlève cette flèche de tes mains et nous serons l'un à l'autre pour toujours. Mais sache que si tu fais cela, tu renonceras à ta vie d'homme pour l'éternité. » Amaury s'agenouilla devant la jeune fille, caressa ses hanches puis retira la flèche. La dernière cicatrice disparut. La biche blanche bondit sur ses sabots et observa son compagnon. Amaury s'était transformé en un cerf splendide, au pelage immaculé comme le sien. Ils s'enfoncèrent dans la forêt et abandonnèrent la masure où ils avaient vécu les premières saisons de leur amour. Depuis ce temps, dans le pays, la biche et le cerf blanc apparaissent pour dire aux hommes que le temps de la chasse, pour quelques mois, est terminé. Les gens du lieu savent alors que la nature a donné tout ce qu'elle pouvait donner, qu'elle a payé son écho et qu'il faut la laisser en paix. Et nul ne se souvient, dans les monts et les vallées qui entourent le château de Brassac, qu'un chasseur ait une fois, une seule fois, désobéi à l'ordre solennel de la biche et du cerf blanc.
She came from the land of the cotton, land that was nearly forgotten by everyone. And she worked and she slaved so hard. A big old field was her backyard. See.